Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Chrétienté, seconde partie dirigée par Guillaume de Thieulois et préenregistrée le 27 mai 2014. Cette émission est diffusée jeudi 29 mai 2014 de 18h à 21h, vendredi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette seconde partie d'émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Bonsoir, amis auditeurs, pour cette deuxième partie du Libre Journal de Chrétienté, diffusé donc le jeudi de l'Ascension 29 mai, mais préenregistré, ce qui fait que vous ne pourrez pas réagir à cette deuxième partie. Pour cette deuxième partie, nous allons organiser notre temps en deux parties. La première avec Emmanuel Ratier qui vient nous parler de son dernier livre, Le vrai visage de Manuel Valls. Bonsoir Emmanuel Ratier.
Bonsoir.
Et nous avons notre traditionnel club des blogueurs catholiques qui nous rejoindront d'ici une demi-heure à peu près pour analyser naturellement la situation politique, en particulier la situation après élection européenne et après difficultés à l'UMP que naturellement tous les auditeurs ont en tête. Et donc nous parlerons un peu de l'actualité politique. Avec un certain nombre de blogueurs catholiques que vous connaissez déjà bien, Nouvel Arbitre, Salon Beige, Itinérarium, etc. Parmi ces blogueurs catholiques, l'un est déjà parmi nous, Vivien Hoche, qui est familier de cette émission et qui commence tout de suite notre deuxième partie par sa traditionnelle chronique. Vivien, à vous la parole.
Bonsoir d'abord. Guillaume, oui, merci aux auditeurs, Guillaume, aux auditeurs de Courtoisie. Et je vais parler d'Europe et de philosophie, et pas du MP qui est tombé un peu en rade. Ça s'appelle « L'Europe et le gros animal ». Pourquoi gros animal? Vous allez comprendre pourquoi. En Europe centrale, on racontait une histoire, l'histoire de trois écrivains de nationalités différentes, soumis à la rédaction d'un livre sur les éléphants. Alors l'Allemand, lui, écrit une énorme somme de 5 livres sur le concept d'éléphant. Le Français, lui, il écrit une pièce badine et sur les éléphants et l'amour. Et le tchèque, enfin, un essai tragique sur les éléphants et la question tchèque. Ceci alors non pas pour parler de mes origines tchèques, hein, qui font de moi d'ailleurs un militant communiste acharné, anticommuniste acharné, qui a d'ailleurs encore, même de ma jeunesse, encore en tête les miradors des frontières de la République socialiste de Tchécoslovaquie. Ni même pour remarquer aussi, puisque nous sommes dans la question européenne, pour remarquer que Prague, par exemple, est une ville où il fleure bien plus ce que nous aimons de l'Europe que l'extrême majorité des quartiers de Paris. Ce qui, d'ailleurs, pourrait constituer évidemment un éclairage sur la question européenne. Mais ceci pour introduire au philosophe, parce que je ne vous cache pas, un peu de philosophie dans tout ce marasme, ça fait du bien, le philosophe tchèque Jan Patočka, grand penseur de l'Europe, grand pourfendeur du communisme, grand martyr, tombé sous les coups de la police politique socialiste de l'époque. Alors, évidemment, c'est celui qui a écrit les essais hérétiques sur l'histoire, qui a fait des séminaires clandestins de philosophie, qui s'appelle L'Europe après l'Europe, et surtout son immense Platon et l'Europe. Alors pourquoi Platon et l'Europe? Parce qu'il y a quelque chose de platonicien dans l'Europe, dans cette civilisation européenne. Et il y a même un mauvais platonisme, c'est l'oligarchie, et un bon platonisme, le souci de l'âme. Cette oligarchie, d'abord, c'est dans la République de Platon où il montre sa préférence pour l'aristocratie, vous savez, le pouvoir des meilleurs. Meilleurs, entre guillemets. Au détriment de la démocratie. Hein, Platon qualifiait le peuple de gros animal. Alors voilà, l'animal, l'éléphant, qui dominait ce peuple par les passions, préférait suivre des démagogues, c'est-à-dire des sophistes à l'époque, des politiciens aujourd'hui, qui le menaient à sa perte, plutôt que de suivre les voies de la raison. Cette méconfiance du peuple se retrouve dans la manière, aujourd'hui, dont se mène la construction européenne, malheureusement, et dans son rapport au peuple. Voyez par exemple De Gaulle, pour qui, moi, personnellement, je n'ai pas le plus grand amour, mais qui, quand même, en 11 ans, a accepté de se soumettre à la volonté du peuple par 5 référendums. Le dernier, d'ailleurs, qui l'a éconduit jusqu'à quitter ses fonctions de lui-même. d'autres pourraient aussi s'en rappeler. Ses successeurs n'ont évidemment pas eu les mêmes scrupules. Seuls 4 référendums ont été tenus en 35 ans. Alors, cette absence de recours au référendum conduit à ce que j'appelle une sorte de monarchisme républicain, renforcé d'ailleurs par cette décision de procéder à l'élection du Parlement après celle du président. Monarchisme républicain qui devient aujourd'hui européen. Et je le dis clairement, il semble que d'ailleurs ce soit la République française qui influence la construction européenne dans tous ses travers jacobins et bureaucratiques. C'est pourquoi, si la ligne de sortie de l'Union européenne domine, comme elle domine apparemment dans les dernières élections, attention à ne pas reproduire ce qu'on critique de l'administocratie de Bruxelles et de la remettre au plan français. Attention. Quel meilleur exemple que la Commission européenne, où l'on peut admirer d'ailleurs cette dialectique perverse entre ceux qui savent, ceux qui administrent et les gros animaux qui peuplent le monde. Quoi de plus déroutant que tout ce système de représentants qui ne représentent plus rien? Et quoi de plus déroutant que de demander aujourd'hui enfin la parole au peuple et de se soumettre à cette parole? Car en fait, le peuple européen n'est pas un gros animal, et là c'est le bon côté de Platon, c'est encore Platon justement qui enseigne que ce peuple européen se définit par le souci de l'âme. Et lorsque Socrate, dans l'Apologie de Socrate, parcourt les rues en disant, je le cite, Socrate, sous les écrits de Platon, « Je ne fais rien d'autre qu'aller par les rues pour vous convaincre, les jeunes, les vieux, tous autant que vous êtes, que le souci de l'âme passe avant celui du corps et celui de l'argent. » C'est pourquoi, en s'appuyant là-dessus, Patochka dira que l'Europe est un concept qui repose sur des fondements spirituels et non sur une structure physique, sociologique et étatique. L'Europe est déjà, vous le voyez, en gestation dans la Grèce antique, à travers cette conversion socratique, la conversion de l'âme vers l'idée, le fait de s'élever des basses occupations matérielles vers le monde des idées, de la culture et du divin. Permettez-moi donc, après ces élections, de saluer avec Platon, avec Patochka, avec l'Europe entière et ce qu'elle comporte de noble, le très petit nombre de partis qui ont mis en avant ce souci de l'homme dans cette campagne des européennes. Et enfin, ce souci de l'homme, et non ce souci de l'État, de la nation ou du pouvoir politique. Merci.
Merci Vivien pour cette chronique sur l'Europe. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie dans le libre journal de Chrétienté, la deuxième partie qui est préenregistrée quelques jours plus tôt. Et donc malheureusement, amis auditeurs, vous ne pouvez pas intervenir en direct. Je salue l'arrivée dans le studio de Michel Janva du Salon Belge. Bonsoir Michel.
Bonsoir Guillaume, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Et je propose que nous passions tout de suite à notre premier gros dossier de cette émission, qui est le livre d'Emmanuel Ratier, livre assez foisonnant d'informations, qui s'appelle « Le vrai visage de Manuel Valls », livre paru aux éditions Facta, qui coûte 16 €, qui est un petit livre de 117 pages et encore une fois qui est un livre qui fourmille d'informations tout à fait originales. Enfin, pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses à la lecture de ce livre. Alors Emmanuel Ratier, d'abord, quelle idée d'écrire sur Manuel Valls? Vous ne saviez pas encore qu'il allait être Premier ministre, pourquoi écrire sur lui?
En fait, bon, je ne vais pas vous dire que je savais qu'il allait être... Premier ministre.
Vous saviez qu'il allait être candidat socialiste au présidentiel?
Non mais, bon, c'est pas inscrit dans le livre. Bon. Non, en fait, j'avais terminé le livre 3 ou 4 jours avant qu'il soit nommé Premier ministre, et il me semblait qu'il serait nommé Premier ministre soit après les municipales, soit après les européennes. Bon. Et je crois d'ailleurs que c'est une grande erreur de François Hollande, enfin une de plus, de pas avoir usé encore un peu plus
héros jusqu'aux européennes.
Et voilà, émettre Manuel Valls ensuite, parce que ça lui aurait permis d'éviter, si vous voulez, c'est simple, il y a eu premier tour des municipales, second tour des municipales, troisième tour Manuel Valls, quatrième tour européenne, et donc on attend le cinquième tour. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression
bien.
Que les...
Et vous le voyez comment, alors, ce cinquième tour?
C'est une série de sauts de haie. Ben, le problème, c'est que tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, on avait gardé le même gouvernement que précédemment, Sauf qu'on avait changé le Premier ministre, je simplifie, mais en gros c'est ça, quoi. Et donc, même si Manuel Valls ne porte pas la responsabilité, ne peut pas servir de fusible. La chronique, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, la France, depuis la Ve République, c'est une espèce de monarchie républicaine ou une république monarchique. Et donc, le but est toujours de préserver le président de la République. On l'avait mieux quand il y avait le septennat. Mm-hmm. Justement quand il n'y avait pas adéquation avec... Voilà. Mais il suffit qu'il y ait un jour une dissolution et ça sera reparti tempo, pour un tempo différent qui ne permettra pas de coordonner les deux. Mais le gros problème là, c'est que Manuel Valls, de toute façon, sa cote est déjà en chute libre. Elle est déjà en train de baisser parce qu'il est quand même atteint par le discrédit qui touche le gouvernement. Mais je crois que pour moi, ça vient de beaucoup plus loin. On le voit dans les premiers commentaires, à la fois des commentateurs et à la fois des hommes politiques. Si vous voulez, il y a une chronologie, on ne va pas parler tout de suite de Manuel Valls, mais extraordinaire, c'est que pour moi qui suis entre guillemets évidemment qualifié de complotiste, qui croit pas que les événements surgissent par hasard, etc. Pour être très clair, par exemple, quand il y a une réunion du G8, du G9, du G20, de tout ce qu'on voudra, en fait il y a des gens avant qui ont travaillé, et les gens ils ont un gros stylo pour qu'on le voit bien sur les caméras, ils signent des accords exactement comme des voyages en Chine ou pour vendre des contrats,
mais
en fait
déjà préparé,
tout a été décidé avant. Bon, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qui était décidé avant. Or, ce qui est absolument fascinant dans cette affaire, c'est que vous avez un casier inconnu, Manuel Valls, donc qui est un petit député, en fait, etc., et qui, en 2008, est sélectionné par le groupe de Bilderberg, qui regroupe quand même, qui est une des plus importantes associations mondialistes, dans laquelle il doit y avoir une douzaine de Français, c'est-à-dire pas grand-chose, et il participe. Pourquoi ? On ne sait pas. De toute façon, les réunions sont secrètes, etc. Je dois être pratiquement le seul chaque année à donner la liste des participants. Mais ce qui s'y passe, on ne sait pas. Un peu comme un jour, Raymond Barre est apparu à la commission trilatérale. Il s'est retrouvé secrétaire d'État au commerce extérieur. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing en a fait un Premier ministre, alors qu'il était inconnu des Français. Bon, bah, Manuel Valls, personne ne le connaissait. Il se présente à la primaire du Parti Socialiste. Il fait moins de 6%. Et pourtant, il se retrouve porte-parole de François Hollande, il se retrouve projeté au ministre de l'Intérieur, ce qui est un très très beau poste. C'est quand même, en général, on commence par un secrétariat d'État ou un petit ministère. Bon. Et puis, 18 mois après, pratiquement, il se retrouve Premier ministre. Bon. Et, à peine est-il nommé Premier ministre, vous avez Julien Drey, qui était le fidéicommis de Dominique Strauss-Kahn, qui dit que ce serait une bonne chose qu'il y ait des primaires au Parti Socialiste pour l'élection présidentielle de 2017. C'est quand même une humiliation absolument incroyable pour François Hollande, qui est quand même le président sortant. On va le président actuel. Et théoriquement, on ne fait pas de primaire quand il y a un président sortant. Et puis vous avez le premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui vient d'être nommé, et qui dit « oui, ça se discute ». Donc c'est absolument incroyable, donc il aurait dû être...
Alors attendez, que je vous comprenne bien, vous voulez dire qu'il y aura probablement... officines mondialistes sont favorables à ce qu'il y ait des primaires au Parti Socialiste, et que vraisemblablement c'est Manuel Valls qui les gagnera.
Je crois que c'est déjà joué d'avance.
C'est déjà joué, d'accord.
C'est pas un hasard non plus si le Congrès juif mondial, à ce qui était en réunion à Paris le jour de la nomination de Manuel Valls, a salué sa nomination. Ce sont des lobbies qui travaillent au niveau mondial. Voilà, bon. Et donc on se retrouve avec, maintenant... c'est d'autant plus probable que on n'en va pas en parler ce soir, mais effectivement, bon, il y a quand même un gros, gros problème à l'intérieur de l'UMP.
Bon, avec ça ne m'a pas échappé.
Le retour de Nicolas Sarkozy. Non, mais c'est pas le but de l'émission. Mais
on
si
va
vous
en
voulez,
parler un peu.
L'éclatement de Jean-François, enfin, les gros problèmes de Jean-François Copé, la difficulté maintenant du retour de Nicolas Sarkozy. Donc ça ouvre le jeu, si vous voulez. Et donc je pense qu'on va essayer de nous vendre François Hollande, en fait, comme une erreur de casting. Excusez-moi pour cher Henri de Lesquin.
L'anglicisme. Voilà. Qui n'est pas du tout, amis auditeurs, l'usage de cette radio de la francophonie.
Voilà. Enfin bon, je crois qu'il
faudra
quand même
une erreur de C.
Voilà. Non, mais on pourrait dire
ça
que.
C'est clair, une erreur.
En fait,
c'est un peu comme
Bertrand Delanoë qui s'est retrouvé maire de Paris. Ensuite, on a parlé comme maire, etc., comme ministre, etc., on lui a fait tout. Et qui a eu finalement une très belle carrière, alors qu'il était complètement inconnu et que ça a été un candidat par accro, puisque je vous rappelle que le candidat, quand Delanoë a été élu, alors que c'était pas du tout prévisible qu'il soit élu, c'était Dominique Strauss-Kahn, déjà, qui était impliqué dans l'affaire de l'AMNEF, l'histoire des cassettes mairies, etc. Et après, ça a été Jacques Lang. Et puis Jacques Lang, finalement, qui était maire de Blois, les députés ont dit, enfin, la Fédération de Paris a dit non, on le prend pas. Et donc, c'est vraiment le candidat de raccro qui avait plus rien, qui était complètement oublié, qui s'était reconverti dans... mais qui s'était reconverti dans la musique, qui travaillait pour une chaîne de radio, en fait, etc. C'était vraiment le difficile de pas utiliser d'anglicisme, mais bon, qui travaillait dans le monde du spectacle, quoi. Ouais, bon, et il se retrouve là-dedans, et ensuite ça devient une espèce de personnage formidable. Maintenant, il a un bureau qu'on lui paye, une secrétaire qu'on lui paye alors qu'il est plus, parce que c'est une espèce de coutume républicaine. Je vois pas où est la copie, mais je vois pas ce qu'il y a de républicain là-dedans. Bon. Mais on se retrouve avec François Hollande, il n'aurait jamais dû être candidat. Celui qui avait été désigné par, je dirais, les instances mondialistes, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui était en parfaite adéquation avec la volonté de Bruxelles, la volonté des États-Unis, en fait, etc. etc. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Bon. Et puis il y a un problème, bon, il se fait prendre dans des... Il y a le Dodo Sex Club, hein, comme ils disent en Grande-Bretagne, enfin en Belgique. Donc il se retrouve avec une espèce d'érotomane qui peut difficilement. Bon,
difficilement
donc,
vendable.
Voilà, bon, donc tout paraissait calculé. Et puis,
il peut acheter, mais il ne peut pas vendre.
Voilà.
On peut pas
donc
le vendre.
On se retrouve, ce qui est en train de nous être présenté en ce moment, par les journalistes, bien évidemment, et par l'intérieur du PS, plus par d'autres personnes, en expliquant que, en fait, le socialisme n'est pas en cause, et qu'en fait, François Hollande n'aurait pas dû être élu. Et que donc, le socialisme n'est pas mis en cause. D'ailleurs, tout se passe bien au niveau européen, etc. On a abandonné la lutte des classes, on a abandonné les ouvriers, etc. Et ne vous en faites pas, on va avoir du travail par l'Europe. La Banque Centrale Européenne va accorder des crédits à la France. La Commission Européenne va accorder des délais à la France, etc. Tout va bien demain. Et tout va bien demain avec Manuel Valls. C'est le discours de Manuel Valls ce soir des élections européennes. Il s'est pris une claque comme ils s'en sont jamais pris une. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est une série de gifs qui commence, quoi. Bon. Et je pense qu'on va nous vendre, je peux me tromper, mais ça me paraît assez plausible quand je vois les commentaires, il suffit de lire, vous savez, il suffit de décrypter pour être clair Libération et Le Monde. Parce que quand vous y rajoutez le patronat avec Gattaz, bon, vous savez tout, quoi. À peu près, vous savez à peu près comment ça se passe. Bon. Donc, et donc, alors, ce qu'on nous dit,
pour le résumer, l'intérêt s'intéresse.
Ils vont vendre Manuel Valls.
C'est probablement la nouvelle égérie du socialisme français.
C'est le nouveau Barack Obama.
C'est ça.
C'est le Barack Obama français, c'est-à-dire qu'on nous a vendu Barack Obama dans le monde entier, en nous disant qu'il va y avoir la paix partout, ça va être bon pour l'économie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, des trucs déliants, les Français donnant leur avis sur l'élection d'un président américain. Bon, je rappelle qu'il n'a pas fermé Guantanamo. C'est le président quand même qui a le plus utilisé les drones pour abattre des pseudo-terroristes, c'est-à-dire abattre en réalité des civils qui n'ont rien à voir avec le terrorisme d'État qui est pratiqué depuis les origines par les États-Unis depuis plus de 100 ans, quoi. Bon. Donc Manuel Valls, c'est le nouveau leurre. Voilà, donc il me paraissait intéressant de s'y intéresser. Ça avait un peu surgi, donc je m'y suis intéressé. D'accord. Et je dois dire que c'est un bon sujet.
C'est un bon sujet. Alors, ouais. Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, nous discutons avec Emmanuel Ratier de son livre « Le vrai visage de Manuel Valls ». Et donc, maintenant que nous comprenons à peu près la logique qu'il y a derrière le fait de s'intéresser à Manuel Valls, pour moi, il y a deux révélations majeures dans ce livre. La première, qui était relativement accessible, mais que moi... que j'avais complètement loupé personnellement, c'est le fait que la famille d'Emmanuel Valls n'est pas, contrairement à ce que dit la légende urbaine, une famille antifranquiste de bons démocrates espagnols qui a fui la dictature nationaliste, d'une part. Et la deuxième chose, c'est que Manuel Valls, avant d'être le grand soutien de la communauté juive en France et d'Israël en particulier, était un grand militant de la cause palestinienne.
C'est pire que ça.
Commençons par le visage antifranquiste. Pour se faire simple, amis auditeurs, vous savez tous que Manuel Valls est un Catalan, et vous savez tous que, comme Anne Hidalgo par exemple, il nous est vendu comme un parfait modèle de la gauche espagnole qui a fui le franquisme. Alors Emmanuel Ratier, vous avez une version un peu différente pour rester poli. Alors, expliquez-nous un peu.
Alors, je vais vous dire, je vais mesurer mon propos et mesurer le vôtre. La chose principale de Manuel Valls, c'est que j'ai pas sans doute fait assez ressortir dans l'ouvrage. En fait, avec tout ce que j'ai récupéré depuis, parce que je continue à gratter, etc., je peux écrire un livre de 500 pages maintenant. Mais je voulais faire un livre petit, 120 pages. Bon, moi, je prends du papier, j'écris partout, j'écris en petits caractères. C'est une biographie de 250 pages chez n'importe quel éditeur normal. Bon. Mais Manuel Valls, la famille de Manuel Valls, ce sont des Catalans. C'est la clé, pour moi, de Valls, c'est que c'est des Catalans. Les Catalans, ils détestent l'Espagne. Si vous allez en Catalogne, un Espagnol qui arrive, enfin, quelqu'un qui n'est pas de Catalogne, qui arrive à Madrid.
Castillan, comme ils disent en Catalogne.
Oui, mais ça peut être un Galicien, etc., un Basque. En général, c'est les Castillans. Il dit, je parle espagnol. Les Catalans lui disent, ah, vous êtes extraordinaire, vous parlez déjà quatre langues. Vous parlez le Castillan, vous parlez le Catalan, vous parlez le Basque, et vous parlez le Galicien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un pays qui est la partie la plus riche de l'Espagne. Donc, par exemple, c'est un pays avec une grande bourgeoisie et très peu d'aristocratie. Donc, ça a toujours été un pays entreprenant, au 19e siècle, révolution industrielle.
Et très libéral.
On va très profiter, oui, mais très très catholique. Et catholique fondamentaliste. Vraiment, Montserrat, etc., il y a toute une tradition. Et maintenant, c'est des innovateurs. On ne se rend pas compte... La Sagrada Familia de Gaudi, c'est le chef-d'œuvre de la chrétienté au XXe siècle, en construction. Ils ont innové en tout, et Gaudi est d'abord un artiste catholique. Mm-hmm. C'est un architecte catholique. Les gens qui vont toute la Catalogne vont participer à la construction, la finançant. Ce sont des gens qui sont très, très catholiques. Mais en même temps, ils sont contre l'unité espagnole, parce qu'ils considèrent qu'ils payent pour le reste. Il n'y a pas d'aristocratie, pratiquement pas. Donc évidemment, ils sont pour la République. Mais pas parce qu'ils sont de gauche, c'est parce que la République va leur offrir plus d'autonomie, alors que la royauté, c'est l'unité de l'Espagne. Et Franco, c'est una grande libre. Donc ce qui les gêne, c'est un uni. Oui. Le reste, ils s'en moquent. Donc, par exemple, vous avez une extrême droite catalane anti-franquiste.
Bien sûr. Ce
que les gens ont du mal à comprendre, quoi. On a du mal à l'apprécier. Donc, bien évidemment, je n'écris à aucun moment que la famille de Manuel Valls est une famille franquiste.
J'ai bien compris.
Ce que je dis, c'est que ce ne sont pas des réfugiés antifranquistes. Un exemple, les parents, donc les grands-parents de Manuel Valls, sont restés en Espagne. Mais évidemment, ils avaient un grand quotidien catholique conservateur qui a introduit le jour même de l'insurrection en Catalogne. C'est-à-dire qu'ils sont virés de leur immeuble, on leur saisit leur journal, s'installent dans leurs locaux, le Parti communiste de Catalogne, le PSUC, qui va sortir un journal qui s'appelle « Trémal ». Ça figure, vous faites des recherches, etc., vous trouvez. La sœur de Manuel Valls a le culot de dire que le journal a été créé pendant la guerre civile et qu'il était interdit par Franco, alors qu'il est interdit par les anarchistes et les trotskistes. Ils cachent des prêtres, ils sont sur la liste des fusées, des
ça les rend
des
plutôt sympathiques, quand même.
Mais je vous dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je n'attaque absolument pas, quand j'écris un article, j'attaque pas la famille. Mais Manuel Valls a instrumentalisé sa famille.
C'est clair.
Voilà. Vous donne un exemple, les grands-parents, donc les parents de son père, ne sont pas partis. Le père de Manuel Valls est un artiste. Il parle le français, il part en 49, donc pas en 39 à la fin de la guerre civile, ou à la guerre, ce qu'on appelle la révolution, parce que c'était beau, il y a eu nationalisation des terres totales. La Catalogne, c'est l'endroit où on sort...
C'est le laboratoire, d'ailleurs.
Non, mais la Catalogne, c'est l'endroit où on sort tous les cercueils des prêtres, etc., et les gens sont obligés de défiler devant et de cracher dessus. C'est parce que c'est des anarchistes, c'était 36. À la limite, ils ont... Même dans le livre du père de Manuel Valls, il dit, ça a plutôt été bien quand les communistes sont arrivés, parce que ils ont remis de l'ordre. Ouais, alors que jusque-là, n'importe qui pouvait se faire égorger, tuer, etc. Donc on pouvait négocier quand même. Le communisme, c'est peut-être pas... Mais il y a quand même des... Le problème, c'est l'anarchie, c'est le bordel, quoi, pour être clair. Bon. Et donc, ils quittent l'Espagne. En 49, pour quitter l'Espagne, ils font un visa de sortie. Bon, ils viennent à Paris. Paris, c'est la capitale avec Toulouse, c'est la République, c'est la capitale des réfugiés antifranquistes. Donc je peux vous dire, pour avoir un visa pour venir en France à Paris... Avec une bourse en plus. Alors que l'Espagne est ruinée en pleine reconstruction. Vous avez évidemment l'aval des autorités. Bon, okay. En plus, c'est un artiste religieux. Il fait énormément il fait un travail et très tourné vers tout ce qui est religion, etc. Il aura des liens avec l'archevêché de Paris, je vous passe les détails. Il fait des tableaux pour les églises de Barcelone, etc. Bon, je vais donner un autre exemple. En 55, donc c'est quand même ce que dit la gauche, la dictature franquiste. Hein, c'est-à-dire que quand même, bon, c'est un régime autoritaire, il n'y a pas de parti, c'est un régime corporatiste, et il y a deux piliers, c'est l'armée et l'église. Mmh. Bon, donc c'est vrai que l'opposition, il n'y a pas de syndicat, il ne devait pas rigoler tous les jours, quoi. Les démocrates ne rigolaient pas tous les jours. Bon, ceux qui n'en avaient rien à faire de la démocratie, ça ne les dérangeait pas. Bon.
Il y avait une démocratie
et de toute façon,
organique.
Comme il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été détruites, ils étaient obligés de reconstruire le pays.
C'est clair.
Bon, donc vous avez un réfugié antifranquiste qui en 1953 s'est acheté une maison à Barcelone. Déjà 1953. Et en 1955, il expose à la biennale, la troisième biennale hispano-américaine, qui est la plus grande manifestation d'art hispanisant, c'est-à-dire que la seconde a eu lieu à Cuba et la première à Madrid. C'est-à-dire que vous avez des artistes d'Amérique du Sud, ceux qui parlent espagnol, pour être clair, plus toute l'Espagne. Bon. Le père de Manuel Valls expose cette exposition, qui est financée par le gouvernement espagnol, et là, pas par la Catalogne, puisque la Catalogne a disparu, elle a éclaté en trois. Hein. Mm-hmm. Et il obtient le premier prix de Nature Morte. Bon. Et j'ai découvert depuis, l'exposition a été inaugurée par le général Franco. Je mets en ligne une vidéo dans trois jours, je présente le général Franco en train de... Bon. Et après, on nous dit, non, non, c'est un réfugié antifranquiste. Moi, je suis désolé. Pour être très simple, Picasso, il n'a pas exposé en Espagne.
J'entends.
Et pourtant... le gouvernement du général Franco, dont le ministre de la Culture, qui n'était pas tout sauf des crétins, avait proposé à Picasso de revenir en Espagne. Il lui avait dit, vous n'avez pas de sang sur les mains, donc vous pouvez revenir. Et Picasso a refusé. Il n'est jamais retourné en Espagne. Mm-hmm. Il n'a jamais exposé une seule fois en Espagne. Bon, ben, je suis désolé, quand on expose, qu'on remporte le Grand Prix de peinture dans une exposition inaugurée par le général Franco, ben, pour moi, on n'est pas un réfugié antifranquiste.
D'accord. Donc, là-dessus, on est, ben, c'est à peu près clair. De toute façon, la démonstration de votre livre, enfin, pour moi, est implacable. Hein, et d'ailleurs, je pense que c'est vous qui m'avez envoyé ce mur Facebook ou je ne sais pas quoi, qui disait, enfin, qu'il y avait des proches de Manuel Valls.
Ah, ben, c'est la sœur de Manuel Valls.
Il ne faut surtout pas en parler.
Qui, depuis, me prend pour un crétin, parce qu'évidemment, quand on est droite ou nationaliste ou populiste ou tout ce que vous voudrez, on est forcément un débile mental avec le front bas, un crâne rasé, en gros est un skinhead, pour être clair. Moi je suis désolé, je suis diplômé de Sciences Po, je suis diplômé du centre de formation des journalistes, j'ai écrit une vingtaine de livres, faut pas me prendre pour un débile. Donc évidemment, moi j'avais inscrit quelqu'un sur le Facebook de sa sœur. Bon, et elle va s'épancher en disant il faut pas parler de ce livre, etc. Depuis, elle est écœurée, elle a fermé son Facebook. Mais qu'on nous prenne pas pour des imbéciles si on ne sait pas. Il se trouve que, là, ça fait plaisir des blogueurs. Bon, et ben, il se trouve que ce qu'on appelle la réacosphère ou tout ce qu'on voudra, et ben, on est les meilleurs sur Internet en France. Et eux, ils n'ont rien compris.
Ça, c'est sûr que c'est pas le Parti Socialiste qui est présent sur Internet.
Mais ils continuent à tout le monde. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est symptomatique. Manuel Valls. Il y a pléthore, vous savez, de conseillers, etc., chargés des trucs les plus inutiles, l'égalité des chances, etc. Truc complètement, personne n'a jamais payé pour ça, enfin, c'est ridicule. Eh bien, il y a une chose qu'il ne s'est pas pris, il ne s'est pas pris un conseiller pour les réseaux sociaux et Internet. Mais il va le payer très cher. Bah déjà, parce qu'il faut réagir très vite.
Il n'a pas de conseiller défense non plus. Hein.
Ben voilà. Bon,
donc, revenons à nos moutons. Je rappelle donc que nous sommes sur Radio Courtoisie, que nous parlons avec Emmanuel Ratier du vrai visage de Manuel Valls, son dernier ouvrage. Donc, en tout cas, pour ce qui me concerne, je trouve que la démonstration sur l'antifranquisme modéré de la famille Valls est assez implacable. Et ce qu'on entend derrière, c'est évidemment qu'il y a un mensonge dans le positionnement politique de Manuel Valls. Ça ne donne pas spontanément envie de lui faire confiance. Alors, il se trouve que par ailleurs, nous étions un peu dans la rue et modérément enclins à lui faire confiance par ailleurs l'année dernière. Mais en dehors de ça, le fait de mentir sur ses origines politiques n'est pas forcément la meilleure façon d'exiger la confiance du peuple français. Et alors, il y a un autre sujet sur lequel, pour le coup, c'est encore plus massif, parce que autant sur les origines non antifranquistes, si je puis dire, de la famille Valls, on peut encore trouver des choses. Autant sur le combat pro-palestinien de Manuel Valls, moi, alors là, pour le coup, je suis tombé de ma chaise en lisant votre livre. J'ignorais absolument, et après ça, j'ai un peu gratté sur Internet, on ne voit pas grand-chose.
On ne voit rien.
Moi, en tout cas, je n'ai rien retrouvé.
Tout a été nettoyé.
L'autre sujet, et c'est à mon avis encore plus important, parce que si nettoyage il y a encore plus de dissimulation. Donc l'autre sujet, c'est Manuel Valls apparaît comme un grand militant de la cause sioniste, et en fait, vous dites qu'il y a 5 ans, il était encore un grand militant aussi acharné de la cause palestinienne.
Ah mais c'est pas compliqué. Manuel Valls a déclaré lui-même devant Radio Judaïque à Strasbourg, « Je suis éternellement lié à la communauté juive et Israël ». Bon, c'est quand même... Enfin, quand on y réfléchit, on s'est dit, le Premier ministre, c'est un grand malade. Parce que, à quoi on peut être éternellement lié? On n'est pas éternellement lié à l'avenir. Puisque l'avenir ne s'est pas encore produit. On est éternellement lié à ses ancêtres. Ses ancêtres, ils sont du Tessin, c'est-à-dire un canton de la Suisse, et ils sont espagnols. Donc Manuel Valls, il est lié à quoi? Il est éternellement lié au Tessin et à l'Espagne, à la Catalogne. Il n'est pas lié à Israël, je veux dire. Sa mère est pas, ses parents ne sont pas d'Israël, quoi. Mm-hmm. Donc c'est strictement, je ne comprends pas comment on peut déclarer des trucs comme ça pour essayer de se faire bien voir des groupes de persiens. Enfin, c'est absolument effrayant. Bon. Et lui, ce qui est absolument incroyable, c'est que vous prenez sa carrière et commence, en gros, vers 1980, quand il est à Tolbiac. Déjà, à l'époque, il est pro-palestinien. Jusqu'en 2009, à peu près, il est pro-palestinien. Mais c'est pas pro-palestinien, c'est qu'il est rabiquement pro-palestinien. C'est-à-dire qu'il est vice-président du groupe d'études parlementaires, parce que comme il sait, la Palestine n'est pas reconsidérée à l'époque, en tout cas, comme un État, donc c'est un groupe d'études, un peu comme pour la Corée du Nord. Ouais. Bon, il jumelle sa ville avec un camp de réfugiés. C'est-à-dire qu'il ne jumelle pas sa ville avec une ville. Il jumelle sa ville avec le plus grand camp de réfugiés palestiniens à l'air libre, qui s'appelle Khan Younis. Bon. Il fait des discours absolument... Il se rend dans les camps palestiniens. Il organise, il finance dans les locaux de la mairie, dans les salons d'honneur, comme on dit, etc., la plus grande manifestation pro-palestinienne de France tous les ans, qui s'appelle 6h puis 8h pour la Palestine. Il fait des discours enflammés, et pas quand il est au Parti Socialiste, il va dans les meetings de l'association France Solidarité Palestine, où il est le seul représentant du Parti Socialiste. Il est avec les communistes, les trotskistes, les lambertistes, les quelques écologistes égarés, plus des militants palestiniens. Vous voyez, bon. Les journalistes, qui sont des gens incroyables, alors qu'il y a Internet, ce sont des gens, les politologues, les gens qui vous suivent, les biographes autorisés, etc. Ils ont interrogé des gens, ils n'en ont pas trouvé. Vous voyez, bon, moi, je ne me suis pas compliqué la vie. Vous allez le voir dans la vidéo là, qui sort dans 3 jours sur le site, je suis désolé, vraivisagemanuelvals.com. Nous sommes allés interroger le président de l'Union française juive pour la paix en Palestine. Vous allez voir la déclaration qu'il fait. Parce que l'autre biographe, qui est journaliste au Monde, je ne vais pas le citer parce qu'il est trop lamentable pour ça, dit il a légèrement évolué. Mais il est passé d'un extrême à l'autre. Il est passé du camp des victimes dans le camp des bourreaux. Alors, c'est absolument incroyable. Et ben, ce type, on lui pose la question, est-ce qu'il a changé? Il a dit, il a complètement changé. Il a totalement, il est passé d'un bord à l'autre. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et plus personne, enfin c'est pas que personne ne s'en souvient, c'est que personne ne veut s'en souvenir.
Et alors, est-ce que ça pourrait pas être quelque chose qui est ressorti à la vie politique classique, on approfondit un sujet, on évolue.
Le changement est brutal.
Le changement est brutal. Et enfin, pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est le fait de gommer ce qui précède. Parce que on peut très bien imaginer qu'il ait évolué, bien sûr. Ça fait partie de la vie. Pourquoi pas? On peut très bien changer de doctrine. Mais pourquoi effacer? C'est surtout ça qui me pose un problème.
Non, mais si vous voulez, Daniel Cohn-Bendit prend sa retraite, là. Bon, il a quand même pas le culot de nier qu'il était le leader du mouvement du 22 mars et qu'il a été un des artisans, non de mai 68, parce qu'il était, tout le monde l'a oublié, il était expulsé de France, mais un des artisans du déclenchement de mai 68. Bon, François Mitterrand a eu un peu de mal à l'admettre, mais bon, il a quand même fini par reconnaître, il y avait même des photos, etc., qu'il a eues lors de la Francisque. Bon, etc., etc. Bien sûr qu'on peut évoluer. Ce qui est absolument incroyable de Manuel Valls, c'est qu'il réécrit tout. Surtout, il réécrit sur ses parents maternels, il réécrit sur ses parents paternels. Enfin, je veux dire, il faut quand même rappeler, c'est du côté de sa mère, je veux dire, c'est des colons en Sierra Leone. Il faut savoir quand même que ce qu'est le régime colonial dans les années 30, 40, quand on fait, c'est le système d'exploitation coloniale au sens marxiste. Bon, il n'y a pas de honte à ça. Mais il ne faut pas les présenter, il ne faut pas présenter son grand-père comme un apôtre du métissage multiculturel et l'homme multiculturel, son ancêtre qui était un représentant du multiculturalisme du XXIe siècle. En fait, c'est, je veux dire, c'est les gens, ils exploitent, c'est le système, qu'on supprime les cultures vivrières, on préfère des cultures coloniales qui vont être exportées vers l'extérieur, etc. Bon, faut quand même pas se présenter, faut pas quand même présenter ses grands-parents comme des socialistes, quoi.
Emmanuel Ratier, mais la vraie question derrière, c'est de savoir pourquoi il a entrepris cette espèce de conversion totale avec effacement du passé, etc. Et parce que notamment, il a été pris, comme vous l'avez dit au début, comme un poulain par certains groupes. C'est finalement la thèse qu'apparemment que vous soutenez. Il a été pris comme un poulain. Pourquoi lui ? Pourquoi ils ont choisi lui comme poulain ? Et pourquoi ? Évidemment, on comprend bien que c'est parce que c'est lui qui a été choisi qu'il a fait tabula rasa sur son passé et qu'il a complètement changé d'identité, le bonhomme, en fait.
Si vous voulez, je sais pas.
La vraie question, c'est de savoir pourquoi c'est lui et qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Bon, qu'est-ce qu'ils veulent en faire ? Apparemment, un président, mais...
Je suis pas, si vous voulez, moi je suis pas introduit dans ce qu'on appelle les cénacles de puissance que Jean-Yves Le Gallou appelle l'hyperclasse mondialisée ou ce genre de gens. Moi j'y ai pas mes entrées, vous comprenez. Je paye mes impôts en France, beaucoup trop, et j'ai aucune réduction comme la quasi-totalité des auditeurs de Radio Courtoisie qui sont pas entretenus par l'État. Bon, donc moi je peux pas vous dire, mais... Je ne vais pas vous dire non plus qu'il a été sélectionné au terme d'un processus, mais je trouve quand même que sa carrière est assez assez météoritique, etc. Quoi.
Mais il y a un vrai changement, il y a un vrai tournant dans ça, d'un seul coup, où il rase le passé et il change complètement d'axe.
Oui,
ça
mais
veut dire qu'il y a, il y a une espèce de déclic. Vous montrez très bien comment il est arrivé au pouvoir alors que c'était un député complètement minable.
Et non, puis d'ailleurs, pas minable, il était assez promeneur. Vraiment... Bon, il y a aussi son alliance, bon, on ne peut pas tout raconter aujourd'hui, mais il a passé quand même alliance, avec, dès le début de sa jeunesse, avec deux personnes qui vont l'épauler, qui ont quand même une grande importance, c'est Alain Bauer et Stéphane Fuchs. Quoi. Il y en a un, c'est le futur grand maître du Grand Orient de France, le patron de tout ce qui est sécurité urbaine et privée en France, c'est-à-dire à la fois le conseiller de Nicolas Sarkozy et le conseiller de François Hollande, hein, pour même être clair.
D'ailleurs...
Et puis Stéphane Fuchs, qui est le pape de la communication politique.
Mais alors à ce propos, il y a une chose qui m'a, enfin, que moi j'ai trouvé très, très étrange, peut-être parce que je n'y connais rien, mais j'ai beaucoup de peine à croire qu'à 20 ans, on puisse monter des pactes comme ça. Autant à 45 ans, quand on a fait une carrière, on s'allie avec des gens. Mais à 20 ans, c'est très impressionnant. Ça veut dire qu'ils ont déjà anticipé leur propre succès. Parce que,
C'est sidérant, mais je ne vous dis pas le contraire. Mais ce sont des gens qui calculent. Attendez, moi, je... C'est pas moi qui ai inventé l'idée du pacte de Tolbiac.
Ami auditeur, pour faire simple, Emmanuel Ratier raconte dans son livre ce qu'il appelle, ou ce que d'autres appellent, je sais pas, le pacte de Tolbiac, c'est-à-dire à l'université, Manuel Valls, Alain Bauer et Stéphane Fuchs font alliance en se disant qu'ils se feront la courte échelle mutuelle pendant toute leur carrière.
Oui, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le titre même d'un article du Monde. Et Stéphane Fuchs, Alain Bauer, je sais pas Manuel Valls, mais ont reconnu cette affaire de pacte. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de passer une alliance. C'était les poulains de Michel Rocard, en fait. Bon. Après, ils sont émancipés de Michel Rocard. Mais il faut savoir que, par exemple, la première femme de Manuel Valls est devenue la secrétaire personnelle de Michel Rocard. Ils avaient des liens extrêmement étroits. Manuel Valls, par exemple, dit « J'ai fait ma carrière en banlieue. » Hein, avec les Weiss, les Blancos, etc. Bon, mais ce qu'on oublie complètement de dire, bon, d'abord, comme j'explique, c'est qu'il est né, enfin, il a grandi dans le 4e arrondissement, de ses fenêtres, il voyait l'île Saint-Louis. De l'autre côté, c'est tout le quartier, le Marais, Saint-Paul, Saint-Gervais, etc. Bon, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus minable, même s'il raconte qu'il y avait des rats qui étaient morts dans l'escalier, que c'était horrible parce qu'il y avait des toilettes en mauvais état. Mais c'est, vous avez ça, mais surtout, il s'est fait d'abord élire. Le premier poste qu'il a, il devient conseiller régional d'Île-de-France au titre de Paris. Il est sur la liste en 86, tout le monde l'a étendu. Bon, pourquoi est-ce qu'il quitte Paris ? C'est pas compliqué, parce que la fédération est pas rocardienne. Elle est tenue par les chevènementistes. Bon, donc un rocardien a aucune chance de faire une carrière intéressante. Donc il se fait parachuter dans un département rocardien. Mais il commence pas en banlieue, et à l'écoute, enfin quand on l'écoute, parce qu'il est très fort pour laisser suggérer les choses. Par exemple, il y a un film qui est absolument incroyable, il est interrogé par Patrick Poivre d'Arvor, et qui lui dit « Votre père militant antifranquiste et même pas réfugié, c'est quasiment son père qui a pris les armes. » Il dit « Militant », et il laisse dire. Il dit pas « Non, bon, on va peut-être remettre les choses au clair, mon père était un artiste, il a eu une bourse, il est venu en 49 à Paris, ça lui a plu, parce qu'il y avait... C'est évident qu'il y avait pas à Paris, il faut pas nier la réalité. À Paris, il y avait une effervescence culturel, pictural, beaux-arts, etc.
Bon, un peu plutonique à Barcelone.
Il n'y avait sans doute pas à Barcelone.
C'est clair.
Bon, voilà. Bon, donc, on comprend qu'une fois qu'on est allé à Paris, on puisse apprécier, mais il continue à aller. Bon. Donc, Manuel Valls, il a pas arrêté de réécrire tout à mesure. C'est ça, c'est absolument incroyable. C'est vraiment un bon client parce que chaque fois qu'on gratte, quand j'ai le temps, je reprends une page, je commence à gratter, je me rends compte que ça ne correspond pas à ce qu'il raconte.
Et alors, peut-être pour finir sur cette présentation de ce livre que je conseille vivement aux auditeurs, hein, donc le vrai visage de Manuel Valls, hein, aux éditions Facta, vraiment, vous ne manquerez pas de révélations. Encore une fois, c'est un court ouvrage, hein, c'est un ouvrage qui n'est pas très cher et qui est très rapide à lire, mais qui est une bombe, à mon avis. Vous m'avez dit il y a quelques jours, par internet ou par téléphone, je ne me souviens plus, que vous aviez encore une cargaison de révélations. Est-ce qu'on peut en savoir un peu
plus ? Je vous dis, c'est pas compliqué. Là, dans trois jours, vous le trouverez sur internet, sur différents sites, mais sur mon site qui s'appelle vraivisagemanuelvalls.com, je sors une vidéo avec toute une série d'éléments, et je sors notamment un film que j'ai trouvé dans les archives de la télévision catalane, à Barcelone. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible, parce que vous savez, pour retrouver des films de 1955, c'est quand même pas facile. Bon, vous avez le général Franco qui vient inaugurer l'exposition, quoi. Moi, je trouve que, vous avez la musique, les flonflons, il y a les ministres derrière, il y a les uniformes. Mais ce qui est extraordinaire, d'ailleurs, c'est que dans la même exposition, vous avez Antonio Tapies, le plus grand artiste catalan, on dit espagnol, mais il est catalan, qui est un des plus grands artistes, on peut dire conceptuels, considéré comme espagnol. Bon. Ces gens qui sont tous considérés comme des opposants aux franquistes, ils exposent. Et je trouve, par exemple, Aude de Quiros pourrait avec intérêt se pencher sur tous ces artistes qui vivaient à Paris, mais qui exposaient en Catalogne. Et j'ai un ami catalan qui m'a dit « Oh oui, mais ça, c'est typique des Catalans. » C'est-à-dire que nous, on a un proverbe pour ça. On dit « L'esprit, c'est à Paris. Les idées à Paris, mais les pesettes à Barcelone. » C'est-à-dire que ils n'étaient pas franquistes. Pas franquistes. Mais ce n'étaient pas des réfugiés, ce n'étaient pas des opposants, ce n'est pas des gens qui ont financé des opérations, etc. Par exemple, je vais vous donner un deuxième exemple. Il y a la grande revue que je n'ai pas encore sortie, mais je vais le sortir. Hein. La grande revue d'art officielle espagnole, c'est la revue donc franquiste, hein, qui est autorisée par le gouvernement, publiée par le ministère des Cultures, c'est la revue Goya. Bon, la revue Goya, j'ai trouvé des articles sur Xavier Valls, d'accord, à l'intérieur.
D'accord.
Bon, c'est le correspondant, ça s'appelle La Chronique de Paris, c'est tenu par Juan Gallego, qui est le meilleur ami, enfin un des meilleurs amis du peintre Xavier Valls. Bon, il a des articles dans la revue officielle franquiste culturelle.
Intéressant.
Bon, moi je sais pas ce qu'on peut en tirer, mais enfin, toute personne normale dira...
Tout le moins, c'est bizarre. Cette façon de se cacher est un peu étrange. Et de réécrire l'histoire, surtout, c'est un peu étrange. Et ça donne pas spontanément envie de lui faire confiance.
Je vais vous donner un autre exemple. Le père de Xavier Valls a publié des mémoires en catalan, que je détiens, que j'ai fait traduire. C'est été tiré à 1500 exemplaires. Ça s'appelle « Ma boîte de Pandore ». Bon. Dedans, il raconte comment il est horrifié. Il a une dizaine d'années... quand se déclenche, là, 12 ans, je crois, 1936. Et donc, il raconte comment il va jouer dans la rue avec des amis. Il y a une voiture qui arrive, c'est des anarchistes. Ils sortent des gens, il les tue devant eux, au pistolet. Et il raconte comment le sang coule, la cervelle coule, qu'il est traumatisé, etc. Mm-hmm. J'ai bien lu le livre, je l'ai peut-être mal lu. Je ne parle pas couramment le catalan. La sœur de Manuel Valls, interview à Paris Match il y a 3 semaines, dit « Mon père décrit dans son livre l'exécution de républicains par des franquistes. » Je vous avoue, j'ai lu le livre, j'ai pas vu d'exécution. Les seules exécutions que j'ai vues, c'est sans doute des gens, des catholiques, qui sont fusillés par des anarchistes. Donc on a l'impression que vous dire toute la famille.
Pas dans le même monde, quoi.
Non, mais
bah, la réécriture de l'histoire par les socialistes, c'est un peu une de leurs de leur marque de fabrique aussi, hein, on va dire.
Ah oui, mais c'est absolument.
En cela, il est bon socialiste français. Voilà. Bravo, Manuel Valls.
Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel Ratier. Donc je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie le vrai visage de Manuel Valls, hein, le dernier ouvrage d'Emmanuel Ratier, qui est sous-titré 120 pages de révélations explosives. Et de fait, je ne sais pas si Manuel Valls sera le prochain candidat socialiste aux élections présidentielles, mais il est certain que ce n'est pas exactement le Manuel Valls qu'on voit à la télé.
Bah, je vous dirais, au moins j'ai eu une efficacité, c'est-à-dire que sa fiche sur Wikipédia était entièrement revue. D'ailleurs, c'était un enjeu, je remercie peut-être les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont acheté le livre d'être intervenus, parce qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines de pages, des centaines de personnes qui sont intervenues, mais au moins elle est corrigée. Alors, mon livre est maintenant en bibliographie en bas. Mais ils ont arrêté de dire que c'est un réfugié antifranquiste, etc., etc. Ils précisent qu'il a eu des prix en Espagne. Voilà. Ça m'a fait plaisir qu'au moins, pour
petite
cette
victoire, mais...
C'est quand même ce qui est plus... Quand on veut s'informer, c'est ce qui est le plus utilisé.
Oui, a priori, on va se servir sur Wikipédia. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel Ratier.
Merci de votre accueil.
Dimanche 15 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 15 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invite à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque. Venez acheter d'irremplaçables cadeaux, offrez des livres dédicacés. Demandez dès maintenant vos billets d'entrée. Envoyez-nous un chèque avec une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse. Retenez, dimanche 15 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la Porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro Porte de Champéret. Entrée 5 euros, gratuit sur présentation de la carte d'auditeur et pour les personnes de moins de 27 ans. Écrivez à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Je vous propose qu'on passe tout de suite au club des blogueurs catholiques. Alors, nous sommes maintenant au complet pour les blogueurs catholiques. Charles de Meyer pour Nouvelle Arbitre. Bonsoir Charles.
Bonsoir Guillaume.
Michel Janva pour Le Salon Belge. Bonsoir Michel.
Bonsoir Guillaume.
Alors, Andrea Papous, vous n'êtes pas exactement blogueur, mais vous allez nous parler d'une initiative intéressante, très intéressante même, sur Internet.
Bonsoir.
Bonsoir Andrea. Et Vivien Hoche pour Itinerarium.
Bonsoir,
on s'est déjà vu tout à l'heure. Donc, je pense que l'actualité de cette semaine, du point de vue politique, est double. Hein. C'est les européennes d'un côté, les affaires, avec les guillemets qu'on met usuellement dans la bonne presse, à ce mot nauséabond, donc les affaires qui frappent l'UMP. Et qui ont probablement des conséquences politiques pas négligeables. Alors peut-être d'abord les élections européennes. Charles, est-ce que vous voulez commencer ouvrir le feu? Quel bilan tirez-vous de ces élections?
Alors de fait, j'ai un bilan personnel à tirer parce que certains des auditeurs sauront que j'étais directeur de campagne de Christine Boutin. Donc le bilan personnel est très médiocre. On peut dire que Force Vie est un échec à trois titres. Un échec de la jeune génération qui était présente dans l'équipe de campagne de Christine Boutin et qui a vu que certains réflexes, certaines manières de faire étaient difficilement modifiables. Le second point, c'est que c'est un échec politique parce que le Front National a fait une campagne nationale républicaine à l'exclusion d'Émeric Choprade, dont d'ailleurs la réussite en Ile-de-France s'explique à mon sens par un discours plus catholique et plus identitaire. Donc la victoire d'un Front National national républicain, c'est-à-dire finalement d'un Front National qui ne sait pas où il habite. Et le troisième point, c'est un échec au sens de la mobilisation. C'est un échec au sens de la mobilisation parce que nous avons vu que les listes souverainistes classiques et les listes, on va dire, marquées par le sentiment éthique sont assez mauvaises. Alors après, si on tire un point de vue plus global... c'est sûr que le Front National a la chance d'avoir à peu près 50 collaborateurs en plus de ses députés au Parlement européen, ce qui va amener à un degré de professionnalisme et d'action politique qui sera différent, qu'on n'a pas connu. et bien malin celui qui dira ce que ça va donner. Je crois qu'il y a vraiment deux familles aujourd'hui qui existent au sein du Front National. Il faut clairement en encourager une, c'est celle qui est autour d'Émeric Choprade. Et celle-ci est foncièrement catholique, foncièrement identitaire, et on n'a rien à lui reprocher. Et puis il y en a une autre, c'est celle qui met Marianne sur ses affiches quand elle gagne le parti. Et visiblement, ça ne dérange personne. Et je crois que c'est un gros problème, parce qu'on ne doit pas oublier que nous ne sommes pas partisans, même quand les élus sont plutôt dans notre camp. Et moi, ça me pose un gros souci.
Alors, revenez un peu pour expliquer. Vous dites le Front National, National Républicain, ça veut dire qu'il ne sait pas où il habite. Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce que vous voulez dire par là ?
Oh bah c'est très simple. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs lignes au sein du Front National. C'est d'ailleurs pas mal, parce qu'avant, il n'y en avait qu'une. Et que dans une de ces lignes, on a une ligne qui est proprement issue de la Révolution française. On peut l'apprécier, hein, très souverainiste, mais fondée sur la nation. Fondée sur la nation dans une révolution issue, dans une définition issue de 1793. C'est-à-dire exclusion totale du phénomène religieux dans l'explication de la société, adoucissement du discours sur l'immigration, avec des vrais problèmes avec leurs partenaires identitaires. Et troisième point, aucune vision sur le réveil organique de la société française. Si on croit que demain Marine Le Pen va solutionner nos problèmes avec simplement les gens qui sont autour d'elle par un changement par le haut, on fait fausse route. Je suis le premier à me réjouir du fait qu'on ait mis une baffe aux partis du système. Je veux simplement expliquer que si on veut redresser notre pays, si on veut que nos idées l'emportent, ça ne se fera pas en une mandature, ça ne se fera pas en deux mandatures, ça se fera par une action sociale très claire. Et cette action sociale très claire n'est pas possible si le Front National ne sait pas où il habite.
Merci Charles. Michel Janvat, donc pour le Salon Belge, est-ce que vous pouvez nous donner
oui, plus largement, sans entrer dans le détail des résultats des partis politiques, je crois qu'on a qu'on a assisté au retour de bâton du piétinement du référendum français en 2005. Enfin, le référendum de 2005 piétiné par Nicolas Sarkozy trois ans après. On a eu vraiment le retour de bâton de la négation du non, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit finalement que la société française a elle aussi cette constante politique et elle est revenue sur ce déni de démocratie en montrant clairement aux élites politiques qu'elle ne voulait pas de cette Europe.
D'accord. Mais alors, peut-être qu'on peut tout de suite faire la transition, puisque Andrea, vous venez ici pour nous parler de cette initiative qui s'appelle paysreel.org, hein, paysreel tout attaché au pluriel.org, paysreels.org. Andrea, expliquez-nous un peu de quoi il s'agit, puisque comme il s'agit de rendre la parole au peuple, peut-être qu'on peut tout de suite passer à ce sujet.
Oui, Guillaume, déjà, toujours dans la lignée des deux autres intervenants, le bilan des européennes, c'est d'abord une crise de la représentation, au sens où, quels que soient les résultats de chacun, c'est l'abstention qui a été le premier parti de France. Voilà. Donc 58% d'abstention, ce qui fait en fait que ceux qui sont aujourd'hui au Parlement européen ne sont pas représentatifs de la véritable volonté du peuple. Paysreel.org se propose justement de mettre à disposition un référendum d'initiative partagée.
Populaire.
Non, déjà organisé.
On a déjà un référendum d'initiative partagée.
Voilà, non. Et l'organiser pour réclamer un référendum d'initiative populaire, parce qu'il n'est pas normal que la représentation soit bloquée par quelques-uns, et nous estimons que le peuple doit reprendre la parole.
Vivien, est-ce que vous êtes un peu aussi pour quelque chose dans cette initiative ?
De fait, il y aura du monde, parce qu'il nous faut du monde, il nous faut au moins 4,5 millions de signatures,
exactement,
je le dis, c'est-à-dire 10% du corps électoral, ainsi que 200 parlementaires, alors, après 198. C'est un peu pour ce billard en deux bandes qui est, pour le rappeler, demander un référendum d'initiative partagée qui a été proposé par Sarkozy et mis en application il y a quelques mois pour arriver et demander donc officiellement un référendum d'initiative populaire.
Et donc paysreel.org, c'est pour justement baisser l'abstention. Pour réussir à baisser l'abstention, nous avons fait un site pour avec une pétition en ligne pour réclamer ce référendum.
Donner la parole au peuple.
Donner la parole au peuple.
Alors, juste pour que les auditeurs aient bien en tête le mécanisme, hein. Donc Nicolas Sarkozy a réformé la Constitution en 2008, ouvrant en principe droit à un référendum dont tous les médias nous ont dit que c'était un référendum d'initiative populaire. En réalité, c'était un référendum d'initiative partagée, c'est-à-dire qu'il y a une initiative parlementaire soutenue par le peuple. Il faut un cinquième des parlementaires, c'est-à-dire en gros
un peu moins de
200 parlementaires, et puis un dixième des électeurs inscrits, c'est-à-dire à peu près 4,5 millions. Il est évident que un référendum dans ces conditions-là est extrêmement difficile. Par exemple, pour prendre un sujet sur lequel le peuple est massivement hostile et la représentation nationale, ou ce qu'on appelle telle, massivement favorable, la Turquie, nous ne trouverons pas 200 parlementaires contre l'entrée de la Turquie en Europe, alors que à peu près 80% ou 70% de la population française est hostile à l'entrée de la Turquie en Europe. Donc ce référendum d'initiative partagée était à l'origine pour... fait en particulier pour empêcher que la Turquie puisse rentrer frauduleusement dans l'Europe. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Évidemment, ça ne peut pas marcher puisqu'il y a un veto parlementaire. Et donc, si je comprends bien votre logique, exactement, c'est de faire le premier référendum d'initiative partagée pour un vrai référendum d'initiative populaire. Alors, quand on dit un vrai référendum d'initiative populaire, j'imagine que c'est 100 parlementaires, c'est-à-dire zéro parlementaire, c'est ça ?
Évidemment, c'est faire sauter le verrou.
C'est faire sauter le verrou. Et en termes d'électeurs inscrits, c'est quoi ? C'est 4,5 millions ou c'est...
1% par circonscription. Donc après, sur l'échelle de la France, je ne vois pas très bien combien ça pourrait me faire. Mais 1% dans une circonscription peut réclamer, déjà au niveau de la d'accord, circonscription. Ouais,
donc référendum local ou référendum
voilà,
national,
les deux.
Différemment.
Okay. C'est vraiment faire sauter le verrou et qui est désormais en France, comme ce qui se fait dans tout grand pays qui s'y respecte, le peuple s'est entendu. De manière très régulière.
Et que le peuple soit directement en face de sa loi et plus par des représentants qui ne le représentent plus. Et on construit une mosquée dans votre ville, on demande l'avis des habitants de la ville, de ceux qui habitent
ça
à côté.
Ça fait partie du genre de référendum.
On fait passer une réforme de civilisation, on demande l'avis au peuple aussi.
Et si on ne leur demande pas, le peuple s'en saisit, c'est bien ça.
Évidemment.
Exactement, le peuple peut s'en saisir lui-même.
Si j'ai bien compris, pour faire sauter le verrou, il faut quand même demander au verrou.
Le premier verrou, oui, c'est de demander au verrou. C'est la seule voie légale. Mais justement, le site se propose déjà de préparer le terrain. Si nous avons 4 500 000 de Français prêts à signer une pétition immédiatement et que nous faisons suffisamment de pression auprès des 200 parlementaires, je ne vois pas comment ils vont oser se mettre à dos 4 500
000. Accessoirement, oui.
Le CESE s'est bien mis à la poubelle. 700 000.
Le CESE n'est pas élu, contrairement
à eux.
Mais il y a une vraie. Une réponse peut-être plus politique à ce que vous dites, Michel. C'est que. Pour ne rien cacher aux auditeurs, je suis un peu pour quelque chose aussi dans cette initiative. Donc je la soutiens en tout cas de toutes mes forces. Donc je me suis un peu documenté sur l'aspect politique des choses en particulier. Et il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est que actuellement au Parlement, il n'y a pas un parlementaire, pas un, vous m'entendez, qui n'appartient pas à un parti qui n'est pas soutenu le référendum d'initiative populaire
dans son programme.
Soit en 2012, soit pour les plus anciens en 2007. Et donc il deviendrait assez cocasse, je dois dire, que si on arrive, ce que j'espère évidemment, mais si on arrive à réunir 4,5 millions d'électeurs, j'avoue que ça se trouverait assez cocasse que des parlementaires nous disent non, on ne peut pas.
Alors que cela a été inscrit dans leur programme politique.
Vous étiez pour il y a 2 ans, vous étiez pour il y a 5 ans. Expliquez-nous pourquoi maintenant on ne peut plus. Alors qu'on a réuni
ce
serait une expérience.
C'est vraiment les mettre devant le fait accompli au pied du mur. Dans vos programmes, c'était là. Voici les signatures. Qu'est-ce que vous en dites ?
Accessoirement, il y a un autre enjeu politique, puisque évidemment, nous sommes en 2014. Dans 2 ans, on rentre dans le processus présidentiel, dans 2 ans ou avant d'ailleurs, parce qu'on
y est déjà.
On peut imaginer que la situation devienne suffisamment cataclysmique pour que Bidibule premier dégage avant, mais en attendant.
Outrage au chef de l'État. J'entends autour de la table.
Oh la boulette.
Une caisse pour le cochon.
Donc il y a deux effets dans le processus. Le premier, c'est évidemment de réussir à faire un référendum d'initiative partagée sur ce système-là avant les primaires.
De tous les partis.
Mais il y a un deuxième effet, c'est que si on n'obtient pas le sujet, mais qu'on a réussi à réunir 3 millions, 3,5 millions ou 4 millions de personnes sur ce thème-là, ça sera un thème majeur des primaires. Et j'attends avec gourmandise les gens qui nous diront « mais non ». On ne peut pas donner la parole au peuple parce qu'il ne sait pas encore très bien ce qu'est, et quel est son bien.
Voilà. Et c'est sortir de cette infantilisation du peuple. C'est vraiment la ligne du site. Sortir le peuple de son infantilisation. Réclamer une démocratie de plus en plus directe. Parce que sur certains sujets, nous estimons...
Peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi PIRL est peut-être plus intéressante qu'une simple pétition en ligne. Du point de vue informatique, vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Du point de vue informatique, nous avons choisi un outil assez cohérent qui permet aussi bien de lister, de faire vraiment des listes de pétitions comme ça se fait sur les autres sites, mais de faire le suivi. C'est-à-dire vraiment, il y a une infrastructure de suivi de la pétition, de relance, de donation. On peut effectivement faire des dons sur la plateforme.
Peut-être que pour terroriser tout de suite Manuel Valls qui nous écoute, puisque nous avions à l'instant Emmanuel Ratier, donc j'imagine que ses services sont à l'écoute. Peut-être qu'on peut tout de suite dire à qui nous avons emprunté la plateforme informatique. C'est au Tea Party américain. C'est terrifiant.
Une pièce pour le cochon.
C'est terrifiant. Il y a maintenant un Tea Party français.
Exactement.
C'est horrible.
C'est le même type de plateforme, en fait.
Concrètement, plus sérieusement, à mi-auditeur...
Ça s'appelle des plateformes d'organisation.
Plus sérieusement, le principal intérêt, à mon sens, de cette plateforme, c'est de pouvoir basculer du militantisme numérique, qui est évidemment utile et sur lequel je pense qu'on maîtrise relativement bien maintenant. Et en tout cas, nous sommes nettement plus forts que le Parti Socialiste, qui entre nous n'est pas très difficile sur Internet. Mais surtout, on peut basculer du militantisme numérique au militantisme physique. C'est-à-dire qu'on peut... c'est de la mobilisation indifféremment physique ou numérique.
Et il faut souligner pour les auditeurs qu'aujourd'hui se passe en France quelque chose de très spécial au niveau politique. La dernière proposition de loi du Parti Socialiste sur la famille a été bloquée par une majorité de députés de l'Entente pour la Famille, c'est-à-dire de députés de l'UMP qui étaient présents pour le mariage pour tous, mais qui ne sont pas, loin de là, des obsédés des thèmes éthiques et familiaux. L'UMP est en train d'imploser. Comme vous l'avez remarqué, le Parti Socialiste a pris une baffe monumentale aux élections européennes. Donc si aujourd'hui nous mobilisons sur Internet, sur les réseaux et en permanence sur tous ces sujets-là, on a réellement moyen de faire changer la politique en France demain. C'est-à-dire que sur les lois Taubira, sur la réforme pénale, sur les lois d'euthanasie qui ne tarderont pas à venir, s'il y a une véritable mobilisation, un changement politique est possible dans le pays. Il faut utiliser PIRL pour cela parce que nous avons vraiment une occasion de faire changer les choses comme il arrive rarement par génération.
Ce ne sont même pas seulement les choses qui vont changer, c'est la structure même des choses.
Exactement.
C'est-à-dire qu'il n'y aura plus ce système de représentativité ou du moins il va prendre un sacré coup. De fait, le député qui ne représente plus personne... Je suis désolé pour Charles qui est collaborateur de député, mais il n'en représente plus personne ou il les représente très mal, hormis certains.
En l'occurrence, il représente quelqu'un, le député.
Hormis certains. Il y en a très peu. Et de fait, lorsque vous vous rendez compte que le peuple se prendra en main un référendum d'initiative directe, c'est-à-dire que chaque personne dans le peuple peut se prendre en main. Quand on rallie aux élections européennes,
Vivien, vraiment,
le Front National est heureux, c'est un parti politique.
Attends, chacun son tour.
Sans te couper, Vivien, c'est vraiment le 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, cette plateforme. C'est-à-dire, quand une personne s'inscrit pour faire la pétition, il peut automatiquement la renvoyer au maximum de personnes et la plateforme suggère des actions qui vont dans le sens du projet.
Et évidemment, ce qu'on appelle la viralité sur Internet.
Une viralité renforcée parce qu'en plus d'être sur Internet, elle incite à passer à l'action physiquement.
Et chacun, de fait, chacun a une raison, au moins une raison, de demander un référendum, que ce soit pour la souffrance animale,
nos ennemis qui veulent fumer,
que ce soit vous êtes contre l'aéroport,
la libéralisation du cannabis, oui, merci.
Voilà,
chacun se prend en main. De fait, la libéralisation du cannabis, on n'attend pas le peuple pour le poser sur la table. Il y a quelques députés verts qui
le font très bien.
Déjà, il y a tout qui arrive, déjà, sans qu'on le contrôle.
Je rappelle quand même, amis qui êtes autour de cette table, que c'est toujours illégal de prôner la libéralisation légalisation du cannabis.
C'était illégal il y a quelques années. Il y a marié deux hommes, mais il y a un maire qui l'avait fait. Donc
il y avait bien une liste favorable à cette libéralisation pour les Européens. Donc, qui n'a pas été interdite.
Revenons à nos moutons. Donc, nous en étions, avant que cette discussion parte un peu en vrille, nous en étions à l'analyse des Européennes. Donc on parlait évidemment de l'abstention du score important du Front National. Vivien, vous aviez quelque chose à ajouter ou pas sur cette analyse des Européennes?
Oui, amoindrir le score du Front National, parce que, encore une fois, si on voit tout simplement 58% d'abstention, c'est un scrutin qui n'intéresse personne, dont tout le monde... d'ailleurs, l'Europe aussi est objet de grosses désinformations. Je suis triste de l'avouer, je ne vais pas reprendre les propos de certains partis politiques centristes, mais il est vrai que l'Union européenne, ce n'est pas forcément ce qu'en décrivent certains démagogues. Voilà. Grosse désinformation autour de l'Europe, gros désintérêt. De fait, le Parti socialiste n'a pas fait 14% du corps électoral, mais 6%. Et le Front national en a fait 10%. Voilà. Alors, premier parti de France avec 10%, j'aimerais dire au Front national que vous ne représentez pas grand monde quand même. Donc, doucement. Voilà. Et surtout, vous représentez des gens qui sont désinformés sur l'Europe. Je le dis au micro, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui peuvent se faire prendre dans la machine, qui n'intéressent personne, ce scrutin, et qu'il y a une grosse désinformation autour de l'Europe. Ils ont surtout voté pour protester, on le sait très bien, contre François Hollande.
Pas que pour protester.
Certes, une démagogie qu'on entend en boucle sur les antennes d'autres radios, etc. Mais, quand même, c'est preuve que c'est un scrutin qui n'intéresse personne.
Andréa,
non, pas que pour protester, parce que pour moi, l'analyse la plus brillante, ça a été malheureusement, comme souvent, celle de Mélenchon. Il est honnête, mais idiot. Il a dit que la problématique sociale a été remplacée par la thématique ethnique. Voilà, les gens veulent rester français. Ils ne veulent pas devenir des Européens dilués dans un ensemble. Ils veulent rester français. Et c'est ce qui a été, ce qu'ils ont exprimé dans leur vote.
Charles, vous qui êtes un mélenchoniste de stricte observance, racontez-nous.
Il faut analyser les cartes de cette élection. Les cartes de cette élection montrent deux choses très claires. La confirmation de la tendance qui a 20 ans de la récupération de l'électorat communiste par le Front National. La deuxième chose, et je vous incite à aller voir sur le site de François de Souche, la carte entre le grand remplacement et le vote Front National, il n'y a plus aucun doute, et ça confirme ce qu'Andréa vient de dire, que plus personne en France ne supporte l'immigration de masse dans les endroits où cela se passe. Donc on a finalement une coalition assez extraordinaire, c'était la coalition du Parti communiste, vraiment, quand il y arrivait, entre le berger ariégeois et le militant de base de Seine-Saint-Denis.
Alors, attendez, expliquez-moi, le berger ariégeois est concerné par l'immigration de masse?
Non, mais il a une véritable souffrance sociale.
Il est concerné parce que de plus en plus, il y a des vols dans les fermes, il y a des bandes itinérantes de l'Est et du Nord de l'Afrique qui rasent les fonds des razzias dans les villages. Au moment des grandes vacances, la problématique, plus personne n'ose aller même en vacances dans certains villages parce qu'ils ont peur de se faire tout cambrioler, sachant que la gendarmerie en sous effectifs, sachant qu'il n'y a quasiment plus de préfets, sachant qu'il n'y a plus aucune force de police sur ce genre de territoire.
Donc si on continue sur cette analyse-là, l'explication du vote Front National, elle est très claire. Elle est populiste. Et c'est ce que Marine Le Pen a très bien compris en adoptant ce que j'appelais tout à l'heure le discours national-républicain. Le problème, c'est que le souci majeur de ces élections européennes, c'est que personne n'a proposé d'idées ou de principes qui puissent permettre de repenser une Europe qui soit à la fois chrétienne et héritière de son identité. Le seul à l'avoir un peu fait, encore une fois, c'est Aymeric Chauprade dans certains discours. Mais ce que je crois aujourd'hui, et ce qu'on a essayé un petit peu d'insinuer chez Force Vie, c'est que nous ne redeviendrons une Europe cohérente et fière d'elle, et avec une vraie distinction par rapport aux autres civilisations, notamment par rapport à la civilisation américaine, qu'en redevenant une Europe chrétienne et en l'affirmant très clairement. C'est quelque chose qui passe très peu, qui passe notamment très peu chez nous, et pour avoir géré quelques colistiers, je peux vous le dire, cela devient insupportable, cette peur des chrétiens, et notamment des catholiques français, surtout après la Manif pour tous, d'affirmer ce qu'ils sont. Je rencontrais dernièrement, du fait de certaines activités, l'association des jeunes filles en médecine, qui veulent faire un combat contre l'euthanasie. Je ne cacherai pas qu'elles sont à 95% catholiques. Elles sont allées voir à peu près 10 intervenants qui leur ont dit, premier mot, vous cachez que vous êtes catholique, premièrement. tant qu'on restera comme ça, on demeurera substance négligeable et on sera dans le mensonge face à des gens qui sont des professionnels du mensonge, donc qui seront forcément meilleurs que nous.
Nous avons besoin de sortir du placard, comme certains.
Donc nous avons absolument besoin, et notamment pour peser sur des partis qui pourraient éventuellement nous représenter, d'affirmer ce que nous sommes et d'affirmer clairement un socle de valeurs. Notre socle de valeurs, c'est une France catholique, avec les implications politiques que l'on connaît. Et cette France catholique, elle n'aime ni Marianne, ni le grand remplacement, ni une sorte de vision un petit peu utopiste de la nation.
Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie dans la deuxième partie du Libre Journal de Chrétienté. Michel Jeanvre, est-ce que vous voulez réagir à ce que vient de dire Charles sur le fait d'assumer son identité catholique? J'ose espérer que c'est le cas du Salon Belge.
J'ose penser que oui, mais en effet, c'est effectivement le problème aujourd'hui depuis des dizaines d'années de la droite, c'est de refuser de s'assumer. Alors, je crois que ça s'applique pas seulement et uniquement au fait de s'assumer catholique. Il y a effectivement ce problème-là qui est central chez nos compatriotes de reconnaître. Et je crois que avec la Manif pour tous, avec cette nouvelle génération décomplexée, mais qui n'est pas encore au pouvoir, cette génération qui est seulement aujourd'hui à l'état d'activiste, hein, entre guillemets, on a une génération qui est décomplexée à ce niveau-là, mais c'est pas encore le cas de nos élites, et je crois que la droite française souffre depuis longtemps de ce complexe d'infériorité, de ce complexe d'idées. Elle sait pas où elle est, elle sait pas qui elle est, elle ne sait pas où elle va, et on le voit bien encore aujourd'hui avec ses soubresauts internes, son conflit. Elle sait pas si elle doit se positionner à droite, finalement, si elle doit se positionner au centre, si elle doit se positionner à gauche, elle ne sait pas quoi penser du mariage, elle ne sait pas quoi penser de l'euthanasie, elle ne sait pas quoi penser du tout. Et je crois qu'elle a un réel problème, alors que le créneau politique est aujourd'hui là, puisqu'on a un parti socialiste qui est quand même au bout du rouleau sur le plan électoral. Il y a une autoroute politique, et sur cette autoroute politique, on a des personnalités, mais on n'a pas réellement, comme disait Charles, d'idées, de valeurs, de convictions, et pas seulement chrétiennes, aussi sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan de la souveraineté.
En même temps, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que cette autoroute est largement empruntée, puisque le Front National fait 25%, l'UMP fait 20%, mine de rien, ça fait quand même 45% pour les partis de droite. Si vous rajoutez à ça 3, 4, 5 par-ci, par-là de listes, on est largement au-dessus de 50%, abstention mise à part. Électoralement, la droite...
Il y a une autoroute, mais cette autoroute aujourd'hui, elle est prise par qui? Elle est effectivement prise par le Front National, qui n'est que à 25%. 25% c'est énorme, et en même temps c'est très peu. C'est pas à 25% que le Front National gagnera les élections de 2017. Et il a besoin de 25% supplémentaires. Et ces 25% supplémentaires, est-ce que c'est l'UMP qui viendra les lui apporter? Est-ce que c'est l'UDI? La problématique, c'est de savoir quelle est cette droite. La droite aujourd'hui a besoin de se reformer, de se réformer, et elle ne le fera que sur des convictions claires, à la fois sur le plan des convictions, même y compris catholiques, c'est-à-dire reconnaître les racines chrétiennes de la France, mais sur des convictions aussi politiques à tous les niveaux. Et ça, on attend encore de le voir.
Charles ?
Puis Guillaume, vous êtes peut-être mieux informé que moi, mais alors la doctrine de l'UMP pour emprunter l'autoroute, je cherche encore à la trouver. Et concernant le Front National, il y a clairement au moins 10 points, c'est-à-dire 10 à 15% de ces électeurs qui sont des électeurs sociologiquement de gauche. On a donc 15% d'électorat de droite sociologiquement, hein, si on reprend la carte, qui sont aujourd'hui perdus. On ne sait pas ce qu'ils font.
Andrea.
Oui, pour justement ce qu'a dit Charles sur l'identité, le catholicisme, quand bien même ils le cachent quand ils sont dans le monde, donc en projection extérieure, comme en RCA, ben ils sont surpris d'être... eux-mêmes déjà classés par ceux qui les voient dans le camp des chrétiens, qu'ils le veuillent ou non. Et quand Boko Haram va capturer, mais il capture pas le français, il capture l'occidental chrétien. Donc qu'ils le veuillent ou non, en projection dans le monde, ils sont chrétiens. Mm-hmm. Donc c'est une négation de soi qui procède d'abord de la destruction, et du coup, c'est ce qui produit tout l'ensemble des symptômes politiques que nous observons en France. Donc on importe l'ennemi parce qu'on se hait soi-même, et on est surpris de la destruction qu'on produit. Donc la destruction n'est que le résultat physique de la destruction spirituelle déjà enclenchée.
Et on perd sur tous les tableaux, c'est le complexe de NKM qui s'abstient sur le mariage pour tous. Alors, en s'abstenant, elle, non seulement elle perd son électorat qui est convaincu et elle ne gagne pas l'électorat qui lui-même est convaincu par cette loi.
Mais de toute façon, NKM sociologiquement est communiste de par son grand-père et donc elle ferait mieux de repartir.
Ce que je veux dire, c'est que NKM est symptomatique de cette droite française.
Et puis alors, pour en avoir discuté avec des Irakiens il y a un mois, des gens qui connaissent réellement la coexistence civilisationnelle entre des chrétiens et des musulmans, si vous leur expliquez ce qui se passe aujourd'hui en France, ils sont à la limite de vous envoyer à l'asile. Et qu'on ne vienne pas nous décrire une pseudo-infériorité, ça fait 2000 ans qu'ils connaissent la situation.
Pas 2000 ans qu'ils connaissent la coexistence.
1400 ans et 2000 ans qu'ils connaissent la coexistence entre diverses communautés qui ne se mêlent pas. On a fait l'expérience plusieurs fois avec mon association de leur expliquer qu'on laissait construire des mosquées en France et qu'on laissait venir autant de migrés qu'aujourd'hui. Personne ne comprend ne serait-ce que l'idée que nous fassions ainsi. Donc on peut attendre le moment où ça va exploser. Mais les gens qui connaissent réellement la situation sont tous d'accord pour dire que c'est intenable.
Ou qu'on affiche la pierre noire de la Mecque dans tous les métros de Paris depuis maintenant 2 semaines. Je pense que certains auditeurs parisiens de Radio Courtoisie ont pu l'observer, financé évidemment par l'État. Donc on vient de pas me dire que c'est une affaire encore libérale ou je ne sais quoi.
C'était le mot.
Juste une remarque, Charles. Vous disiez qu'il y avait 10 à 15% de l'électorat du Front National qui était de gauche. J'entends bien qu'une partie vient du Parti communiste, ça c'est clair, sociologiquement, mais est-ce qu'on peut pas dire que cette partie vient du Parti communiste pour avoir constaté les ravages de l'immigration sur ses conditions de vie, par exemple, sur son identité, sur la sécurité et sur son travail, et que donc, sur la question de l'immigration, ils ont basculé à droite, et donc ils ne sont plus vraiment... Enfin, s'ils adhèrent au Front National, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont basculé.
Ou alors c'est tout simplement parce que le Front National a basculé dans la défense des travailleurs qui, à l'exclusion du Front National, n'existe dans aucun parti aujourd'hui. Donc personne ne peut faire grief au Front National de s'intéresser à la question sociale de nos jours et de retrouver des ouvriers qui ont effectivement une dégradation terrible de leur cadre de vie, une concurrence à la baisse en termes de salaire du fait des immigrés. Mais la réalité sociologique, si vous voulez Guillaume, de cet électorat, c'est bien qu'il vient de la gauche et c'est bien qu'il vient de régions qui, par exemple en Ariège, où il y a 22% de l'électorat qui a voté pour le Front National, où on ouvrait très grand les portes des églises au moment de faire l'inventaire, etc. Mm-hmm. Donc il n'avait pas du tout ce qu'on appelle très, très simplement de tension, de réflexe réactionnaire. Donc il y a cette évolution-là. Ce qu'il y a, c'est que si aujourd'hui on avait cette union qui est fantasmée par notre famille politique depuis très longtemps entre
depuis 1905 justement
le travailleur qui a son intérêt bien compris et la droite réactionnaire, pour faire simple, on aurait aujourd'hui le vrai socle d'un renouveau politique. Le problème, c'est que la droite réactionnaire aujourd'hui, on ne sait pas où elle habite. Elle ne vote visiblement pas tant que ça en masse pour le Front National. Elle s'abstient ou elle soutient encore un petit peu l'UMP, mais elle ne s'investit pas. Et quand elle ne s'investit pas, ça veut dire très simplement qu'elle va envoyer ses enfants voir Christeros, qu'elle les enverra éventuellement, si c'est une famille un peu militante, chez les scouts, mais que surtout, ils ne feront pas de politique, surtout, ils ne feront pas d'action associative, et surtout, ils n'iront pas au débordement des manifestations pour tous. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, il y a un choix de vie, il y a un choix citoyen à faire. Soit on veut essayer de laisser la France se sauver et se construire par ses forces vives, par sa solidarité charnelle, soit on choisit de préserver ses enfants. On peut entrer même dans une logique communautarienne, mais il ne faut plus, après, venir servir des discours sur la grandeur de la nation, l'héritage, la loyauté et le nom de soi.
Andrea, vous vouliez réagir ?
Je voulais juste dire que ces électeurs qui viennent de gauche, qui passent au Front National, c'est d'abord par intégrisme laïciste. C'est le premier point, et c'est le point le plus important pour eux. C'est le fait religieux, les sidères, les horripiles. Ils avaient maté les catholiques, comme ils le disent eux-mêmes. Ils voient l'éruption d'un nouveau phénomène religieux qui apparaît près de chez eux, l'islam radical, l'islam militant. Et ils sont au Front National pour éradiquer l'islam militant. Ils ne sont pas au Front National parce qu'ils pensent que l'immigré physiquement n'est pas bon dans son territoire. C'est d'abord le fait religieux qui pose le problème. Et nous le voyons très bien dans la polémique de Babylou. une entreprise qui est dite privée dans un cadre où il y a une femme voilée, je ne vois pas en quoi ça concerne la République. C'est une entreprise privée, avec ses règles privées, dans son socle privé. Et cet intégriste laïciste veut que même dans l'entreprise privée, on édicte. On commencera par le voile, on terminera par la croix. Il faut le savoir.
Oui, Andrea, vous ciblez vraiment bien justement cet intégrisme républicain, ce que j'ai appelé aussi cette monarchie républicaine dans la chronique. C'est-à-dire, et quand je dis au Front National, alors vous voulez sortir de cette Europe-là, très bien, mais c'est pas pour refaire la même chose au plan national. Et quand j'entends, par exemple, Aymeric Chauprade qui veut nationaliser des entreprises, moi ça me choque, véritablement. C'est-à-dire qu'ils font, évidemment, c'est un parti socialiste, puisque ça veut nationaliser quand même des entreprises en 2014, dans l'ère de la mondialisation, on va nationaliser des entreprises, des SNCF qui font des trains trop larges, des Total, etc. On sait ce que ça donne, le capitalisme de connivence. Ça, c'est inquiétant. C'est pour rameuter des gens à gauche. Et comme Charles, vous l'avez bien noté...
Il n'y a pas besoin de nationaliser pour faire du capitalisme et de connivence. Il me semble que pas mal d'entreprises privées...
Là, c'est encore plus clair. Et de fait, vous l'avez bien ciblé, la droite réactionnaire... finalement peut voter pour le Front National, c'est un fait extrêmement intéressant, et je pense que même la droite réactionnaire est rejetée chez elle, pour la grande majorité. Les gens ne croient plus dans le régime politique, donc là on discute de politique,
plus dans le
c'est le message que je veux faire passer.
Pays réel,
et c'est pour ça que je veux parler de pays réel.
C'est faire monter.
Je crois que les gens ne croient plus en la politique, je suis désolé pour Charles qui a mené des listes, etc. C'est bravo pour ce travail, j'ai d'ailleurs rendu hommage quasi à Force Vie, c'est-à-dire qui a replacé la question chrétienne et la question de l'homme au milieu de l'Europe, et c'est juste. Mais il est vrai que je pense qu'il y a un désintérêt ou alors même un désespoir vis-à-vis de la question politique. On leur donne la solution, c'est de reprendre les rênes, de reprendre les mains, de faire un référendum, de voter pour cette pétition et de pouvoir enfin mettre les choses qui leur tiennent à cœur sur la scène politique.
Je propose pour conclure que chacun d'entre vous conclue par une phrase ou deux d'analyse et puis surtout éventuellement un message d'espérance. J'entends le message d'espérance de Vivien pour la reprise en main du peuple français par lui-même. Charles, est-ce que vous avez un espoir qui naît de cette élection européenne ?
Oui, j'ai l'espoir d'une mobilisation des citoyens pour surveiller et pour interagir. Peut-être qu'on lancera une initiative dans quelques temps d'ailleurs à ce sujet, vis-à-vis du travail de leurs parlementaires européens. Je n'ai pas toléré l'argumentaire, à mon avis, complètement accablant de Marine Le Pen, qui nous expliquait que finalement elle était parlementaire européenne, mais quand il y avait quelque chose de plus intéressant à faire pour la nation, elle était présente pour la nation. Ça a une bonne plastique, sauf que si on considère que 80% de son temps est primordial pour la nation, bah on se présente pas aux élections européennes. Sinon, l'argument n'est pas tenable. Je pense que l'argument d'espoir qu'on peut avoir, c'est d'avoir des réflexes citoyens, de s'informer, de partager l'information et aujourd'hui de s'affirmer dans son identité catholique.
Michel ?
Je terminerai par un chiffre, hein, parce qu'on a beaucoup parlé d'abstention au premier parti de France. Donc il y a eu 43% des Français seulement qui sont allés voter. Paradoxalement, les catholiques pratiquants, selon les sondages, donc selon un sondage qui est sorti mardi après-midi, les catholiques pratiquants ont beaucoup plus voté, puisque 81% des catholiques pratiquants se sont déplacés dimanche.
Ils ne sont pas forcément les réactionnaires, hein, les catholiques pratiquants.
Oui, moi c'est dire allez sur le site paysreel.org et signez la pétition, reprenez le pouvoir. Prenez votre vie en main, voilà.
Vivien ?
Voilà, le message que j'ai fait passer, désintérêt pour la chose politique, c'est triste, mais reprenez cet intérêt en main.
Merci à tous les quatre. Nous nous retrouvons dans 4 semaines pour une nouvelle édition du Libre Journal de Chrétienté. Et d'ici là, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Chrétienté dirigé successivement par Daniel Amiche et par Guillaume de Thieulois. Il est diffusé jeudi 29 mai 2014 de 18h à 21h, vendredi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros, ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.